Personne n'a attendu les smartphones pour garder la trace d'un bon concert. Quand il n'y avait pas ces lucioles planant dans la fosse au-dessus des têtes, les gens voulaient aussi garder une trace d'un concert particulier et le diffuser. C'était pas sur portable, mais sur cassette, vinyle et CD. Comme la chouette, cette pratique en effraie certains, à commencer par les labels. Alors, au programme de cet épisode, un micro historique du bootleg, une exploration de bootleg connus et un voyage fugitif au cœur de cette pratique clandestine poussée par une passion mélomaniaque. Bienvenue à vous dans Chouette. Alors je sais pas vous, mais souvent quand je vais à un concert, je bois. On se sent comme poussé par la soif de désinhibition, parfois une pinte dégueulasse peut devenir la plus divine des bières grâce au spectacle sonore qui se déroule sur scène. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que le terme bootleg est dérivé du monde des trafiquants d'alcool. Le bootleg est à l'origine la petite tige des bottes, où les cow-boys y glissaient leurs flasques. Puis, pendant la prohibition, le terme bootleg a commencé à désigner l'alcool de contrebande. Et ceux qui en faisaient le trafic étaient appelés bootleggers, tout comme le groupe que vous entendez en ce moment derrière ma voix. J'ai trouvé le rapprochement rigolo. Sitting here thinking, I can't stop thinking, doing too much drinking over you. C'est à partir des années 70, ou de manière générale tout volcan, que bootleg désigne les disques de contrebande ou les disques pirates. Mais même s'il y a une différence, les deux sont souvent confondus. Heureusement, la législation permet d'un peu distinguer la nuance entre les deux, laissez-moi vous expliquer. L'objet pirate est produit sans l'accord des ayants droit. Il peut s'agir d'une contrefaçon, par exemple lorsqu'un disque officiel est copié et revendu, avec de simples pochettes en plastique ou photocopiées viteuf, vous voyez le genre. Il peut s'agir également d'un enregistrement réalisé par un spectateur durant un concert alors que la pratique est interdite. Cependant, une tolérance s'est instaurée. Tant que l'enregistrement est à usage privé, il n'est plus sanctionné. Mais du coup, qu'est-ce qui distingue vraiment le bootleg du pirate? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Le bootleg désigne un enregistrement qui ne fait pas l'objet d'une commercialisation officielle. Si votre groupe préféré donne un concert qui n'est pas exploité en disque ou en vidéo par sa maison de disques et que vous avez pu en faire un enregistrement à l'aide de votre smartphone, et si ensuite vous diffusez cet enregistrement, eh bien vous faites un bootleg, bravo. Dans de nombreux pays, la loi prohibe la production et la diffusion de bootlegs. Les fabricants sont souvent poursuivis, ce qui les amène soit à s'installer dans des pays où la législation est plus coulante, soit à agir dans la clandestinité. Parmi les adeptes de la première méthode, on peut citer bien sûr les bootleggers italiens qui profitent d'une particularité législative. La loi italienne autorise la libre diffusion d'enregistrements de concerts 20 ans après leur date de création. Jusqu'à présent, tous les concerts ayant eu lieu avant le 13 octobre 1997, précisément, peuvent légalement être exploités en Italie. Une condition toutefois, rémunérer les ayants droit. C'est pour cela que sur les bootlegs officiels qu'on peut se procurer en Italie, il est souvent écrit qu'une somme d'argent a été provisionnée sur un compte en banque au cas où les artistes réclameraient des droits d'auteur en vertu de l'article de loi blablabli blablablu. Est-ce une clause de style ou est-ce qu'ils le font vraiment? Ça, je ne sais pas. De plus, il est souvent précisé sur les pochettes que la date du concert remonte à plus de 20 ans. Il existe même une collection de bootlegs publiée par la compagnie Bulldog Records qui s'intitule « It was more than 20 years ago ». Cette compagnie indique même une adresse postale sur ses pochettes. Là aussi, est-ce une véritable adresse? Mystère. Parmi les compagnies de bootleg qui ont choisi de rester dans la clandestinité, soit la plupart d'entre elles, quelques-unes ont parfois indiqué des adresses fantaisistes sur leurs pochettes, comme la compagnie The Swiggin' Pig, qui écrivait « Made over the rainbow » fait sous l'arc-en-ciel. Alors pour résumer, et pour faire très simple, les bootlegs sont des enregistrements non officiels d'œuvres sonores. Difficile de donner une définition plus précise, sous peine de devenir trop restrictif, parce qu'on pourrait dire que les bootlegs sont des enregistrements non officiels de concerts, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est loin de là. Tous les bootlegs ne sont pas des concerts, Il y a aussi des démos, des sessions enregistrées pour la radio, des albums inédits, etc. On aurait aussi pu dire que les bootlegs sont des enregistrements non officiels de groupes de rock. Mais on en trouve en réalité dans tous les genres, y compris le jazz, voire la musique classique, on va y revenir tout à l'heure, et même parfois des spectacles d'humoristes. Il semble qu'il y ait eu des enregistrements illicites commercialisés probablement dès le début de la commercialisation des disques. Dès le début du XXe siècle, les premières machines qui permettent de graver des cylindres de cire, notamment celle de la firme italienne Tini, donnent naissance à des enregistrements hors commerce. Au tout début du siècle dernier, en 1901, le père du bootleg, Lionel Mapleson, était bibliothécaire au Metropolitan Opera de New York quand il a commencé à enregistrer des concerts depuis le trou du souffleur situé sous la scène. Malheureusement, il s'en fit finalement déloger parce que le pavillon proéminent relié à l'aiguille de gravure gênait la vue de certains spectateurs. Mais il continua malgré tout son office jusqu'en 1903, relégué plus loin sur le côté de la scène. Mapleson a ainsi laissé une grosse centaine de cylindres d'une qualité très inégale, certains sont à peine audibles, qui forment l'un des rares témoignages sonores sur l'art lyrique au début du XXe siècle, où apparaissent le temps de quelques mesures, puisque les enregistrements ne dépassaient pas 3 minutes, certaines des plus grandes stars de l'époque. Le bibliothécaire a conservé ces enregistrements, qui n'étaient à l'époque pas considérés comme illégaux puisqu'ils n'ont pas été vendus, chez lui jusqu'à sa mort. Ils n'ont été édités, en partie, qu'à partir de 1937, sous la forme de 78 tours, aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. D'ailleurs, écoutez-moi cet extrait de Faust. Faisons un petit saut dans le temps maintenant. En musique, l'après-guerre est marquée par une rupture dans le petit monde des pirates de la musique. On passe d'une culture de la sauvegarde d'un patrimoine négligé à une quête maladive de disques qui n'existent pas, enfin qui n'existent pas officiellement. Plusieurs évolutions nourrissent cette génération de bootleggers. D'abord le 33 tours micro-sillon, déjà peu cher à produire et surtout l'enregistrement sur bande magnétique qui permet aux musiciens de multiplier et multiplier les prises en studio et donc les versions différentes d'une même chanson. À ceci s'ajoute l'ambiance de l'époque, hein, la rébellion d'une génération qui ne veut rien faire comme la précédente qui a conduit le monde à la guerre. Mais à partir de la fin des années 60, avec l'envol du rock business, l'élévation du niveau de vie de la jeunesse et la multiplication des usines de pressage de disques, le bootlegging est entré dans une nouvelle ère. Et en 1969, il y a un bootleg en particulier qui atteint une très très grande notoriété. Pourquoi ? Parce qu'il a été immédiatement diffusé par des radios locales de Los Angeles et parce qu'il contenait quelques morceaux vraiment rares d'un artiste alors en convalescence après un accident de moto. Je veux bien entendu parler de Bob Dylan, et cette compilation d'inédits et de maquettes s'appelle Great White Wonder.
be with me, but if you got no, it's all right. But if you got to go, oh, now, all it is, you got to stay all night. What time it is, so if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, all is you got to stay all night. I am just a poor boy, baby, trying to connect. Ain't got any respect, so if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, all is you got to stay all night. To find a door, so if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, all is you got to stay all night.
Voilà, c'était Bob Dylan avec le titre « If you gotta go now », un des titres enregistrés entre 66 et 67. Vous avez peut-être saisi cette imperfection relâchée dans l'enregistrement, et c'est ça qui a conduit en masse les fans vers ce bootleg. Avec le temps, le Great White Wonder est devenu un album à part entière pour les fans, et Columbia en a publié une partie 6 ans plus tard dans The Basement Tapes, un de mes albums préférés de Bob Dylan pour ma part, qui a aussi une histoire... folle. Les deux jeunes auteurs du double album pirate, Great White Wonder, ont affirmé plus tard qu'au début, ils n'avaient pas l'intention de mettre en place une industrie parallèle du disque de rock, mais le succès de leur première production a été tel qu'ils ont décidé de poursuivre l'expérience. Le label qu'ils avaient fondé, Trademark of Quality, est devenu le plus célèbre de tous les labels de bootlegs qui allaient bientôt pulluler un peu partout dans le monde. Quelques mois après Great White Wonder, Trademark of Quality réalisa coup sur coup deux nouveaux bootlegs qui connurent un succès considérable. En septembre 69, ils publièrent Come Back, qui contenait des bandes de mixage réalisées par Glyn Johns du futur album des Beatles, Let It Be. Écoutez-moi ça. 1, 2, 3, 4. I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, Puis ce fut au tour des Rolling Stones de voir un de leurs concerts bootlegués et sortir fin 69 sous le nom de Liver That You'll Ever Be, avec la même pochette sobre caractérisant Trademark of Quality à un carton blanc. Ce bootleg eut tellement de succès qu'il poussa Decca Records à sortir précipitamment un live officiel du groupe Get Your Yayas Out. Alors après Dylan, les Beatles et les Stones, Trademark of Quality s'attaqua à tous les groupes et artistes majeurs de l'époque, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Frank Zappa, The Who, Hendrix, Neil Young, Yes, etc. etc. Parlons maintenant des cassettes audio. La cassette audio a été commercialisée par Philips en 63, mais ne s'est vraiment répandue qu'à la toute fin des années 60. De plus, les magnétophones à cassette étaient vraiment, vraiment volumineux, et la qualité de l'enregistrement très médiocre, le plus souvent en mono. Pour obtenir une bonne qualité sonore, il fallait disposer d'appareils beaucoup plus coûteux et sensiblement plus gros, donc plus difficile à dissimuler. Un taper a eu pas mal d'imagination pour réaliser des enregistrements de très, très bonne facture. Et il s'agit de Mac Millard. Mac Millard rentrait dans un concert assis sur un fauteuil roulant dans lequel il dissimulait son matériel d'enregistrement, relié au micro caché sous sa casquette. Et oui, il existe même un mini documentaire sur YouTube, écoutez son ami expliquer comment il s'y prenait.
The wheelchair era, that was started out of necessity. Getting a Nakamichi 550 and all these microphones in, you can't just put it down your pants and walk in. He would smuggle a deck into a hollowed out wheelchair cushion, and I would push Mike in with the wheelchair. This started in March of 1975. He had his bag with a nice pair of underwear strategically placed, so they wouldn't want to dig through the bag a whole lot. I would push him in, we would go in right up to the aisle next to our seats. I'd put the wheelchair off to the side, and then Mike would start immediately wiring everything up. He put the microphones in his hat, because that way you had direct line of sight to the speakers, you weren't reflected. So if people stood up in front of us, he would stand up. You know, the consummate fan. Looking back 40 years, you know, thinking that when we were in the car after a show, drinking an ice cold beer with the headphones on, listening to the recording, this pristine quality Led Zeppelin recording. You know, nowhere in our wildest dreams that these would be digitized and shared. That these would be so cherished.
Voilà, il y a comme ça mille histoires à raconter sur le bootleg, de près ou de loin, mais il y a une autre histoire très fascinante qui concerne les Grateful Dead. Alors, si vous ne connaissez pas les Grateful Dead, pour faire très très court, disons que c'est une pierre angulaire de l'histoire du rock, notamment évidemment psychédélique, un des plus grands groupes de rock tout simplement. Je suis comme beaucoup un fan de leur musique, mais il faut savoir que les Grateful Dead, c'est un univers à part entière. J'aimerais vraiment leur consacrer un podcast. Je vous conseille d'ailleurs de regarder l'excellent documentaire The Other One sur Netflix ou encore la série documentaire Long Stretch Trip disponible sur Amazon. Dont on va écouter d'ailleurs un extrait, car c'est dans cette série documentaire que j'ai appris, figurez-vous, que les Grateful Dead ont laissé les fans enregistrer leurs concerts et ont même encouragé cette pratique. On estime comme ça que plus de 2000 des approximativement 2300 concerts du groupe ont été enregistrés sur cassette. Il existe des images délirantes de shows où il y a des rangées de micros au milieu du public. Écoutez-moi ça.
Or there were tapers. They would, you know, go there with all their gear and set up their gear. When I first started going to Dead shows, they didn't yet have explicit permission from the band, so it was still, in a sense, a form of bootlegging. Portable recording equipment was getting pretty good, and people started showing up at our shows with expensive equipment, nice microphones, all that kind of stuff, recording the shows, and the record company wanted to, you know, well, we got to shut that down. because those people are going to record your shows and then they're not going to buy your records.
We were confronted with two options. We can either be cops or we can let them in.
We didn't want to be cops.
How do you feel about people taping Grateful Dead concerts and trading the tapes?
Hey, when I'm done with it, if somebody can find a use for music after it's been performed, fine with me.
As it turns out, we get credit for all kinds of visionary business practices and stuff like that. We were just doing the easiest thing.
In fact, what happened was this is the greatest promo tool in the history of music. You give away your music, your recorded music, you make your money on selling tickets. And since every show is different, you could record every show and you still wouldn't have heard it all and you'd still want to go to that next show. We doubled or tripled our audience. Why? Largely because of taping.
Voilà, c'était un extrait de Long Strange Trip. Alors cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette petite histoire du bootleg vous aura plu. Si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller dans la description de l'épisode pour voir toutes les sources que j'ai découvertes. Ce sont tous des mines d'or, d'informations et de pépites, comme on dit. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Chouette. Écoutez toujours plus de musique et justement on se laisse sur un morceau des Rolling Stones, Street Fighting Man.